de Campus FM présente une série d'exposés développés par des spécialistes dans des domaines variés concernant la Martinique ou son environnement régional ou même mondial. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les moulins de la Martinique. Nous devons cette émission à Vincent Huyghe-Belle-Rose, agrégé d'histoire, docteur ès lettres et sciences humaines, qui a été enseignant à l'UAG, mais surtout à l'Association régionale des Amis des Moulins de la Martinique, l'ARAM, qui a édité pour vous un petit livret intitulé « Moulins de la Martinique », dont je vous parlerai tout à l'heure. Le sujet aujourd'hui portera donc sur les moulins. Dans une première partie, nous vous présenterons ce qu'est un moulin. Ensuite, nous parlerons des différents types de moulins. Puis, nous nous attarderons dans une troisième partie sur les moulins à eau. Et enfin, nous verrons les moulins à vent. Je vais donc commencer par la première partie et vous introduire au monde des moulins. Je vous disais donc tout à l'heure que nous devons cette émission au travail d'une association qui a été créée l'année dernière, l'ARAM Martinique. Cette association apporte son aide à tous ceux, personnes privées ou publiques, qui veulent donner vie aux moulins, défendre un patrimoine en danger et amener la population à profiter de ces monuments que certains propriétaires passionnés savent faire aimer et font même visiter. Cette association adhère à la Fédération des Moulins de France et sauvegarde, chaque fois qu'elle le peut, tous les types de moulins, y compris les systèmes hydrauliques existants à la Martinique. Elle favorise leur conservation et leur mise en valeur. Vous trouverez l'ARAM Martinique dans l'ancien collège, rue Castien-Sainte-Claire, au Saint-Esprit. Sinon, le petit livret est disponible à la bibliothèque universitaire du campus de Schœlcher. Il est gratuit, mais ne le prenez que si cela vous intéresse, bien sûr. Les moulins, vous les rencontrez partout en parcourant notre île. Vous n'avez sans doute pas fait toujours attention à ces constructions en forme de tours assez curieuses. Ce sont là les ruines de moulins à vent qui, jadis, occupaient la région entière. Ils étaient construits en pierre du pays et assemblés au mortier de chaux. Quelques-uns existent encore, en bon état. D'autres ont été transformés en maisons d'habitation, en citernes, et malheureusement, beaucoup ont été abandonnés et même détruits par la main de l'homme ou par quelques figus maudits qui, en tombant, a fait s'écrouler toutes les maçonneries. Lorsqu'on s'intéresse un peu à notre culture, on peut être étonné qu'il n'y ait aucun proverbe. Vous connaissez tous le proverbe français « On ne peut pas être à la fois au four et au moulin ». Eh bien, j'ai cherché désespérément, remonté le temps, les vieux manuscrits, interrogé des grandes personnes. Je n'ai jamais trouvé d'évocation des moulins, ni dans les dictons, ni sous la plume des écrivains antillais. De l'extérieur, on pourrait croire que seules les descriptions techniques des premiers missionnaires chroniqueurs témoignent de la présence de cet équivalent essentiel, de cet équipement indispensable à la mise en valeur coloniale des îles d'Amérique et, finalement, à la formation de la culture créole. En y regardant de plus près, on trouve quelques illustrations de voyages au XIXe siècle, quelques photographies de cartes postales 1900, où les vieux moulins, surtout les moulins à vent qui sortent du paysage, étaient considérés un peu comme des souvenirs de la Martinique que l'on rapportait d'un voyage que l'on envoyait à des parents ou à des amis restés en Europe. Rares sont leurs successeurs d'aujourd'hui. J'ai cherché sur les cartes postales. Il est très rare que l'on ait photographié et que l'on présente comme produit touristique un moulin à vent ou un moulin à eau. Mais cela revient dans les dépliants, dans les guides. Et pourtant, ces vestiges sont fort intéressants et même fort beaux. Lorsqu'on regarde le paysage de la Martinique, on se rend immédiatement compte que notre île est particulièrement riche en témoin de cette technologie technologie qui était destinée jadis à transformer les productions agricoles. On pense immédiatement à la canne à sucre en apercevant de tels vestiges. Mais la production du sucre n'a été ni la première, ni la seule. Et bien souvent, ce que nous apercevons n'est que la pellicule de la réalité des moulins, comme disent ceux qui étudient le paysage. Cette pellicule de la réalité serait-elle occultée par le souvenir confus et pesant de l'esclavage auquel on veut tout relier ? Il faut pourtant rappeler que si l'industrie sucrière doit son développement à l'emploi des esclaves transportés d'Afrique, son véritable essor date du XIXe siècle. À ce moment-là, il n'y a plus d'esclavage. L'essor, on pourrait presque dire l'explosion de la production sucrière, qui va d'ailleurs faire passer le leadership des petites Antilles françaises à Cuba, elle suit l'abolition de l'esclavage. Et elle repose sur l'évolution technique des outils mécaniques de production. La plupart des moulins à eau et à vent qui subsistent encore aujourd'hui sont les témoins concrets de cette évolution finale, évolution complexe et mal connue. Les traces de l'activité agroalimentaire, je veux dire par là qu'il ne s'agit pas seulement de sucre, toutes ces traces donc constituent bien un patrimoine industriel que les Martiniquais doivent légitimement se réapproprier afin de pouvoir assumer pleinement l'univers technologique de notre temps et sortir de l'écran de leur ordinateur pour retrouver le concret. Je vais maintenant vous parler plus précisément de ces constructions au fond assez curieuses, ces tours que l'on voit un peu partout, souvent à des points stratégiques, on pourrait dire à des points de vue touristiques, et vous faire découvrir d'autres moulins, moins visibles et pourtant tout aussi importants. Mais commençons par le commencement. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un moulin ? Un moulin, c'est une machine à moudre, à piler, à pulvériser ou à broyer certaines matières pour en exprimer de la farine ou du sucre, hein, un jus. Par extension, le mot désigne l'édifice à l'intérieur duquel la machine est installée et surtout le moteur qui actionne cette machine. Pourquoi construire des moulins et ne pas se contenter finalement de presser la matière dans sa main ou de l'écraser sous son pied, comme l'ont en fait les sociétés dites primitives ? Eh bien, le but recherché est le rendement. Avec un moulin, on cherche à obtenir le plus de matière moulue ou pressée à partir du matériau d'origine, avec le moins de déchets possible et en choisissant au mieux l'énergie utilisée. On construit les moulins en fonction de ce que l'on veut écraser ou broyer, d'abord. Ensuite, en fonction de l'endroit où l'on veut le faire, le plus proche possible du lieu de production des matières pour éviter des frais et des difficultés de transport. Et par conséquent, c'est le troisième point, on construit les moulins en fonction de l'énergie disponible, qui souvent est plus déterminante que le lieu de production des matériaux à broyer ou à écraser. Enfin, donc, on choisit le moulin en fonction des matériaux utilisés. À partir de ces critères, le génie inventif de l'homme a conçu plusieurs machines et divers moteurs. Considérons d'abord que un moulin devient une machine et non plus un simple outil lorsqu'il n'est plus dans le prolongement de la main de l'homme, lorsqu'il n'est plus actionné par le bras ou par le pied, mais par un moteur. À ce moment-là seulement, son mouvement est indépendant de la présence de l'ouvrier, lequel n'est plus là que pour le contrôler. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. On parlera d'un outil, par exemple, lorsque, à propos du manioc, on verra les Caraïbes grager sur une planche hérissée de pointes de jaspe ou de silex les racines de manioc pour en faire une bouillie qui donnera la farine ou la cassave. De la même façon, lorsque l'on pilait dans un mortier du café ou des graines de cacao pour les réduire en poudre, on avait là, certes, un moyen mécanique de transformation, mais un moyen qui n'est qu'un outil, car il est dans le prolongement immédiat de la main de l'homme. Même chose si vous considérez d'autres produits, par exemple les rouleaux à pâtisserie. Lorsque vous voulez faire un gâteau, vous utilisez donc une bouteille ou un rouleau fourni dans les magasins spécialisés et vous écrasez votre pâte pour faire un fond de tarte ou aplatir et mettre au four votre préparation. On pourrait multiplier les exemples, mais je les ai limités à l'alimentation et à des produits proches de ceux qui sont utilisés ensuite par le véritable moulin, c'est-à-dire le moulin machine. À partir de quel moment peut-on parler de moulin à propos de la Martinique ? Eh bien, les plus anciens moulins sont par exemple le rouet à torquer le tabac. Vous avez sans doute vu accrochés sur les murs ou dans les lieux publics les fameuses gravures de Duterte ou du père Labatte qui vous montrent les esclaves d'une habitation modèle faisant des torques, c'est-à-dire des espèces de petits rouleaux de tabac, à partir d'un mécanisme qui est un peu identique à celui qui sert à faire des cordes, des cordages pour les navires ou pour tous les travaux agricoles de l'habitation. La force de l'homme, dans ce cas, est transmise par une simple poignée. Mais il y a déjà décomposition du mouvement. Avec le poignet, l'homme fait un mouvement circulaire, mais ce mouvement est transformé en moins un mouvement de torsion par le rouet. Prenons maintenant un autre type de moulin, celui qui sert à grager le manioc. Bien, c'est un moulin à manivelle. La force du bras de l'homme est transmise par ce qui a l'air simple et évident, mais qui a pris des siècles et peut-être des millénaires à être mis au point, c'est-à-dire la manivelle qui donc transforme un mouvement de va-et-vient, celui de l'homme qui est accroché à la manivelle, en un mouvement circulaire. On appelle cette machine un moulin à bras. Dans les premiers temps de la colonisation de la Martinique, on a aussi cultivé l'indigo. Eh bien, l'indigo aussi a donné lieu à un moulin. Mais cette fois-ci, on le plaçait à terre. On faisait une espèce de cuve dans laquelle il y avait deux meules et ces meules tournaient dans la cuve, entraînées par un cheval pendant des heures. On se servait aussi d'un moulin à manivelle pour agiter l'eau de la préparation d'indigo, puisque, comme vous le savez sans doute, avant de recueillir la poudre de teinture de l'indigo, il fallait mettre à pourrir et à décanter les feuilles de la plante dans un bassin. Et ce bassin, il fallait en agiter l'eau en permanence pour éviter que les feuilles du dessus ou de dessous soient plus pourries ou traitées différemment que celles du dessous. On trouve encore des moulins pour le coton. Alors celui-ci est très intéressant parce que c'est une adaptation du rouet de la vieille Europe qui servait à filer la laine. On mettait donc des grosses balles de laine tondue sur le mouton, dégraissée et lavée, et la machine en sortait un fil qui était ensuite embobiné. Eh bien, de la même façon, les petites boules de coton qui sont recueillies sur la plante étaient entassées et la machine les filait. On pouvait aussi s'en servir pour égrainer. Le moulin à égrainer le coton était actionné par un pied, le pied de l'homme, qui appuyait sur une pédale. Cette pédale, donc, faisait tourner, par un mouvement de transmission, la roue du rouet. Qu'il s'agisse donc du tabac, du manioc, de l'indigo, du coton, eh bien, dans tous ces cas, la machine est conçue suivant le principe du moulin, c'est-à-dire d'une roue agissant sur la matière, émue par une force extérieure. Au fond, ce que je viens de vous dire est une espèce de tableau des productions de la première colonisation de la Martinique. Rappelons qu'au début de cette colonisation, donc à partir des années 1635, les colons qui s'installent sur le littoral caraïbe se préoccupent d'assurer leur survie en cultivant le manioc, et ils se préoccupent aussi d'obtenir un moyen d'échange pour leurs outils, leurs vêtements, et même parfois le superflu, en expédiant vers l'Europe des plantes susceptibles d'y être vendues. Le tabac, que l'on appelait alors pétain, le coton, le gingembre, le roucou et l'indigo. Dans le cas du manioc, du coton et du pétain, qui doivent être transformés avant leur utilisation, la nécessité d'une machine s'est imposée très rapidement. Donc, très tôt, les cases à manioc, ou les grageries, comme on a dit plus tard, ont été équipées d'un moulin à grager. D'abord, c'était une petite boîte avec une roue actionnée par une manivelle, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, qui permettait de transformer les tubercules en bouillie. Il y avait aussi les cases à coton, qui permettaient donc d'égrainer l'écosse de la plante et d'en faire des balles de coton, voire du fil. On appelait cela des moulins à grainer. Et puis des cases à pétain, munies d'un rouet à torquer. Je vous ai dit tout à l'heure ce que ça signifiait que torquer, c'est-à-dire rouler en corde, les feuilles de tabac. Très vite, la culture du tabac, puis celle du coton, ont été abandonnées. Celle de l'indigo aussi, d'ailleurs. Et du même coup, les moulins à égrainer, les moulins à torquer, ont disparu. En revanche, les premiers moulins à manioc, dans leur conception au moins, puisqu'ils n'ont pas subsisté depuis le XVIIe siècle, avec les poux de bois et la pourriture, mais on continue à en construire sur le même modèle jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir, par exemple, au musée du Saint-Esprit ou à l'écomusée de Rivière-Pilote, vous pouvez encore voir des moulins à manioc en bois. Jusqu'à l'avènement du pain, de nombreuses habitations produisaient de cette farine de manioc ainsi que de la cassave pour alimenter l'île entière. Vu la quantité produite, le simple moulin à bras ne pouvait pas suffire. Elles ont donc eu l'idée de brancher le moulin à grager sur la roue du moulin à sucre, du moulin à canne, veux-je dire. Et en fait, ce moulin à canne, c'est celui qui était actionné par les grandes roues à eau, dont certaines subsistent encore sur des habitations qu'on peut visiter ici et là à la Martinique. De ces grands moulins à grager le manioc, qui était soit en prise directe sur le moulin à eau, soit avec un système de transmission par courroie, il n'en subsiste malheureusement aucun. À partir du XVIIIe siècle, en revanche, d'autres moulins sont apparus pour la préparation du cacao et pour la préparation du café, qui, comme vous le savez, a été introduit au début du XVIIIe siècle à la Martinique et a été si important qu'il était l'équivalent et le concurrent de la canne à sucre. Ces productions, cacao et café, ont à leur tour bénéficié de moulins à décortiquer qui ont remplacé le fameux mortier et pilon dont je vous parlais au début, l'outil à piler le café ou à piler les graines de cacao. Quant à l'indigo, après avoir été abandonné au début du XVIIIe siècle, sa culture a été relancée à la fin du XIXe siècle. un ancien directeur du jardin botanique de Saint-Pierre, qui a miraculeusement échappé à l'éruption parce qu'il se trouvait alors au Morne Rouge. Il s'agit d'Augustin Thierry, installa des moulins mus par une roue hydraulique à Grand-Rivière. Il reste encore les grands bassins et le barrage de retenue qui alimentait la roue de cette indigoterie de Grand-Rivière installée entre 1896 et 1900 à Grand-Rivière par le botaniste Augustin Charles Thierry. Passons enfin à ce à quoi vous avez tous pensé quand j'ai commencé à vous parler de moulins. Passons à la canne. Dès le début de la colonisation, bien avant 1654, on avait commencé à faire un peu de ce que Dutertre et les vieux chroniqueurs missionnaires appellent du vin de canne. Ce vin de canne, eh bien, c'est du vesou, comme on dit aujourd'hui, et c'est ce qu'on vend sur les bords des routes, hein, et qui a ce côté rafraîchissant et sucré, surtout si vous le buvez bien glacé, avec un peu de citron. À cette époque, on faisait fermenter ce jus de canne. Mais avant de pouvoir le faire fermenter, il fallait obtenir le jus de canne. Eh bien, pour en extraire le vesou, qui est le vrai mot pour désigner le jus de canne, on se servait de deux rouleaux qui écrasaient donc les cannes entre eux, et ces deux rouleaux tournaient l'un contre l'autre, l'un sur l'autre, entraînés par une grande roue à bras qui ressemble un peu au cabestan des navires. Cet outil, qui, d'après certains chercheurs, dériverait de la calandre à tissu, c'est-à-dire des cylindres qui servaient à lisser les tissus dans les industries européennes, on l'appelle encore, en Haïti, dans les bois de Guyane et à La Réunion, on l'appelle un bric-à-brac. En fait, le bric-à-brac, deux rouleaux actionnés par trois pieux en croix comme un cabestan, sont ce qu'on pourrait considérer et qu'il faut considérer le premier modèle du moulin à canne. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les bêtes, ce ne sont pas les machines, ce n'est pas le vent, ce n'est pas l'eau qui a servi à broyer la canne au début, mais comme pour tous les moulins, les bras de l'homme. Le premier moulin à canne était un moulin à bras, et ce problème de l'énergie, les bras, la force de l'homme, l'eau, le vent, nous permettra de découvrir dans la deuxième partie les énergies qui sont nécessaires pour obtenir des moulins. Vous êtes sur la fréquence 96.7 de Campus FM, à l'écoute de l'encyclopédie sonore de Campus FM. Aujourd'hui, nous avons parlé des moulins, nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure, et nous venons de découvrir les premiers moulins de la Martinique et ce à quoi ils servaient. Cette encyclopédie sonore vous présente une série d'exposés développés par des spécialistes dans des domaines variés. Aujourd'hui, nous vous parlons des moulins de la Martinique, et cet exposé, ainsi que la documentation qu'il suppose, vous sont présentés par l'ARAM, l'Association régionale des Amis des Moulins de la Martinique, dont le siège est à l'ancien collège rue Cassien-Sainte-Claire au Saint-Esprit, à la Martinique. Et la voix que vous entendez est celle de Vincent Huyghe-Belle-Rose, agrégé d'histoire, docteur d'État S-Lettres et Sciences Humaines, qui se passionne pour l'histoire des techniques. Tout à l'heure, je vous parlais des moulins, de leur absence dans la culture, en tout cas dans la culture orale, dans les proverbes, et de leur présence, pas toujours remarquée, dans le paysage. Je vous ai parlé de leur origine, et dans la seconde partie, que j'aborde maintenant, je vais vous faire un peu de technologie, vous permettre de comprendre un peu ce que sont ces machines, comment leur mouvement est produit et transformé et avec quelles énergies. Nous parlerons ensuite des moulins à vent, essentiellement des moulins à canne, puis des moulins à eau, dits aussi hydrauliques. Qu'est-ce que c'est que les moulins ? Eh bien, ce sont des machines. Alors que l'instrument, l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, n'est qu'un fragment de matière naturelle, utilisé occasionnellement par l'homme pour atteindre un but simple, l'outil est déjà adapté à une fonction précise. Il est en outre destiné à servir plusieurs fois. Prenez par exemple certains animaux évolués, des oiseaux, par exemple le merle de Nouvelle-Calédonie, ou la fourmi, ou des primates. Certains animaux se servent d'un instrument, mais ils le font occasionnellement, et une fois qu'ils se sont servis de la branche pour faire levier, d'une roche ou de tout autre élément de la nature pour obtenir le but qu'ils recherchent, ils abandonnent cet élément. L'homme seul a appris à réutiliser cet élément, mais surtout à en fabriquer, que ce soit des éclats de pierre taillés, des éclats de pierre polis, puis ensuite, ou des morceaux de bois pour servir de gourdin ou de massue. Prenons par exemple le mortier et le pilon africain, la grage à manioc amérindienne, mais aussi la serpe et le coutelas européen, eh bien, ce sont tous des outils. Ce ne sont pas des machines. Lorsque l'outil est composé de plusieurs pièces qui travaillent ensemble et qui sont souvent assemblées, eh bien, on parle de mécanisme. Le moulin à bras, dont je vous parlais tout à l'heure, le bric-à-brac, le moulin à torqué, le moulin à égrené, eh bien, le moulin à bras, comme le métier à tisser, sont des mécanismes parce qu'ils sont composés de plusieurs pièces qui tiennent ensemble, qui sont liées, et surtout qui restent là, même lorsqu'ils ont servi, ce qui fait qu'on peut les réutiliser, les réparer, les améliorer. Ce n'est que lorsqu'un moteur met en mouvement ce mécanisme pour assurer un travail que l'on parle de machine. À ce moment-là, il faut placer entre la force fournie par l'énergie et l'assemblage d'outils que nous avons appelé mécanisme, qui assure le travail, entre ces deux donc éléments fondamentaux, il faut insérer un dispositif d'entraînement ou de transmission. Le plus ancien et le plus fréquemment utilisé encore de ces dispositifs d'entraînement ou de transmission est le levier. Le levier est un multiplicateur de l'effort initial qui permet un travail supérieur. On fait levier à l'extrémité, par exemple, d'une barre, on la place sur un point d'appui, et au-delà de ce point d'appui, on obtient une force beaucoup plus importante qui va pouvoir produire le travail. On peut donc définir la roue motrice comme un levier. Simplement, au lieu d'être un levier qui monte et qui descend, hein, comme le cas d'un cric de garage pour soulever une automobile, au lieu de rester donc pivotant sur le point fixe qui repose au sol, la roue motrice tourne sur 360 degrés autour du point d'appui que l'on va appeler un axe. Un tel dispositif, on le retrouve dans le cas d'une roue à poignée ou à manivelle. La force appliquée par les bras décrit un cercle complet, c'est-à-dire 360 degrés, autour de l'axe qui est ici appelé essieu ou arbre. On constate donc que tout repose sur la roue, ce levier à bras pivotant sur 360 degrés que je viens de vous décrire. On peut même dire qu'il n'y a pas de moulin sans roue. Pour obtenir la force motrice dont il veut disposer, l'homme doit en effet détourner, dériver, démultiplier ou réduire la force initiale. Il doit aussi transformer les courants de force, lorsqu'il s'agit d'eau courante, lorsqu'il s'agit du vent. Ce sont des courants de force linéaires que la nature lui met à sa disposition. Il doit les transformer en mouvements de force circulaire, voire alternatifs, pour actionner la machine qu'il a fabriquée. Le mouvement linéaire produit par les muscles, ou par l'eau, ou par le vent, n'a pu devenir énergie motrice qu'à partir du moment où on a su le transformer en mouvement circulaire et le transmettre à une roue. La roue se présente ainsi sous deux aspects, comme un mécanisme, une roue à aube, une aile de moulin, un rouleau broyeur, et comme une pièce de machine, une roue dentée, un pignon. En ce sens, sans plaisanterie, on peut dire que c'est à juste titre qu'on parle d'un moulin à propos d'une automobile, puisque le moteur tourne, c'est une roue, et qu'il fait tourner en plus les roues, ces roues qui permettent à l'automobile d'avancer. Dans tout moulin, quel qu'il soit, il y a d'abord et avant tout donc une roue et un mouvement circulaire. La roue et le système d'interaction de roues qu'on appelle engrenage sont la condition technique qui rend possible la transformation de la force de l'énergie en travail d'écrasement ou en travail de broyage. Une fois que l'homme a acquis les outils qui accomplissent le travail, les rouleaux à torquer, les rouleaux à égrener, les rouleaux à broyer, les rouleaux à pilonner, eh bien, il lui a suffi de combiner les 5 dispositifs mécaniques élémentaires pour construire une machine capable d'extraire le jus de canne, de grager le manioc, de décortiquer le café, le cacao, de piler ou d'agiter l'indigo, etc. Ensuite, les choix opérés sont liés à la source d'énergie disponible ou la plus économique, et enfin à l'introduction de matériaux nouveaux pour fabriquer les mécanismes et la machine. Le mouvement circulaire, je l'ai dit, le mouvement d'une roue, est tout à la fois le moteur et l'action du moulin. On peut même dire qu'il conditionne sa première définition. Pour plaisanter, on pourrait dire que faire un moulin, c'est tourner en rond. Le moulin et le mouvement circulaire est l'action, puisque au départ, moulin désigne l'association de deux meules ou disques de pierre tournant l'une sur l'autre. C'est l'origine du moulin, l'origine étymologique en latin du moulin. C'est les deux meules. Le disque est, je vous le rappelle, une roue. Eh bien, les deux disques qui pivotent sont nécessairement à l'origine de l'action de mouliner ou de moudre. Le mouvement circulaire est aussi le moteur du moulin, puisque, au départ, il faut mouvoir la meule glissante sur la meule dormante. Vous avez une meule en dessous qui ne bouge pas et une autre que l'on fait tourner. Et entre les deux, il y a ce que vous voulez broyer ou moudre. Eh bien, la meule glissante est entraînée par un levier qui décrit un cercle complet. Et on retrouve encore ce que je vous disais du principe du levier décrivant un arc de 360 degrés. Le plus simple, c'est donc de faire de la meule glissante, celle qui est au-dessus, une roue, ou de la lier à une roue. C'est ce qui se produit, par exemple, dans le va-et-vient du métier à tisser, qui fait que, même actionné par une roue à main ou à énergie naturelle, on ne pourrait le qualifier de moulin, puisqu'il n'y a pas va-et-vient. puisqu'il y a va-et-vient et pas mouvement circulaire. En revanche, comme je vous le disais, c'est sans abus de langage qu'on parle de moulin à propos d'un moteur d'automobile. Quoique produite par une succession d'explosions linéaires, on parle d'un moteur à explosion, je vous le rappelle, l'énergie motrice est immédiatement transformée en mouvement rotatif et transmise à des roues qui tournent et font mouvoir le véhicule. Le moulin est donc un appareil mu par rotation et qui travaille par rotation. Il en va ainsi du moulin qui n'est pas européen, mais indien, car, comme vous le savez sans doute, la canne à sucre vient de l'Inde. Elle a gagné la Méditerranée orientale grâce aux Arabes, puis la Méditerranée occidentale grâce, si l'on peut dire, aux croisades qui l'ont ramenée dans la future Europe. Et de là, les Espagnols l'ont introduite dans les îles Canaries, dans les îles de l'Atlantique, puis dans ce nouveau monde qu'ils ont découvert avec Christophe Colomb. Eh bien, ils ont emprunté à l'Inde la plante et le produit alimentaire qui en dérive. La plante, c'est la canne à sucre. Le produit, c'est le sirop, c'est le sucre, c'est l'alcool, le sucre. Mais ils n'ont pas produit, ils n'ont pas adopté ni emprunté le moulin qu'utilisaient et qu'utilisent toujours les Indiens pour moudre. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, pour broyer, dirons-nous, écraser la canne, c'est-à-dire une sorte de mortier dans lequel on place la canne, puis on y dépose un pilon, et ce pilon est relié à une longue perche qui tourne, entraînée par un cheval. Il n'y a pas là, vous le voyez, de rouleau broyeur, il y a un mortier et un pilon broyeur, mais on retrouve une fois encore le mouvement circulaire. Où que ce soit donc, sitôt qu'on a voulu broyer de la canne, on a adopté un mouvement circulaire, on s'est tourné vers le principe de la roue. Considérons maintenant le moulin à canne. Qu'est-ce que c'est qu'un moulin à canne ? Eh bien, nous avons vu tout à l'heure, à propos du bric-à-brac, que c'est d'abord deux rouleaux qui tournent l'un contre l'autre, en mouvement inverse, pour faire passer la tige de canne et en même temps l'écraser. Très rapidement, on a ajouté un troisième rouleau à ces deux rouleaux initiaux. Les moulins à canne comportent, depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle, trois rouleaux mobiles maintenus côte à côte par un châssis fixe. Si vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a plusieurs outils tenus ensemble, fixés, qui peuvent resservir, qui peuvent être réglés, et on a bien affaire à une machine, à un mécanisme. Les rouleaux broyeurs ont d'abord été placés verticalement, en ligne, puis, beaucoup plus tard, horizontalement, en triangle. Le rouleau menant, c'est celui du milieu, reçoit le mouvement de l'arbre moteur et le transmet aux deux rouleaux menés par un engrenage de roues dentées que l'on appelle hérisson. Le hérisson du rouleau central, du rouleau menant, s'engraine dans les deux engrenages, dans les deux hérissons des rouleaux latéraux, de part et d'autre de ce rouleau central, et les fait tourner en mouvement inverse. La canne est introduite entre les deux premiers rouleaux, puis réintroduite entre les deux derniers. Elle est écrasée et le jus sucré, ou vesou, est ainsi séparé de la fibre, que l'on appelle, comme vous le savez, de la bagasse. Le vesou tombe sur la table du moulin et coule par gravité vers une gouttière, puis une conduite qui le dirige vers la sucrerie. Il y a donc en fait, dans le moulin à canne, deux introductions, ce que l'on oublie souvent. On introduit la canne fraîche devant, une fois qu'elle est sortie, broyée une première fois, on l'attrape et on la fait rentrer par derrière pour qu'elle repasse. Et à ce moment-là seulement, on la tire et elle est presque sèche. Il ne reste plus qu'à la faire sécher complètement pour en faire du combustible. Ce n'est pas tellement la façon dont on fait du sucre qui nous intéresse, vous en êtes bien douté, mais la machine. Revenons donc à ce moulin. On voit bien que chaque pièce du moulin à canne est animée d'un mouvement circulaire. Ce mouvement, c'est une rotation. Seule la canne, qui passe et repasse, est affectée d'un mouvement linéaire, que l'on appellera une translation, lorsqu'elle passe d'un rouleau à l'autre. Les trois rouleaux, initialement en bois, portaient chacun un nom. Les chroniqueurs français ne nous les ont pas rapportés, mais nous les connaissons par les chroniqueurs de langue anglaise et par l'iconographie, les illustrations. Nous savons ainsi que le cylindre central, le rouleau menant, s'appelait grand rouleau. Celui de gauche s'appelait rouleau à sucre et celui de droite, rouleau à bagasse, ce qui, vous le voyez, nous permet de retrouver le circuit de la canne. Elle devait donc entrer par la gauche, puisque le rouleau appelé rouleau à sucre se trouve à gauche. Elle passait entre ce rouleau et le rouleau central, et elle ressortait à droite, entre le rouleau central et le rouleau à bagasse, et à ce moment-là, on avait de la bagasse. Tous les autres principes, toutes les autres adaptations que nous allons voir, jouent sur la matière que l'on va utiliser pour fabriquer les rouleaux, sur l'énergie que l'on va utiliser pour entraîner les rouleaux. Mais vous remarquerez que on a toujours, dans tous les cas, un mouvement circulaire. Le mouvement des ailes, comme celui de la roue à aube, crée une rotation. Le mouvement des bêtes qui tournent dans un moulin à bêtes crée eux aussi une rotation. Ce mouvement de rotation est transmis par des axes et par des engrenages jusqu'aux rouleaux broyeurs qui sont eux les organes de travail du mécanisme. Entre eux, les ailes ou la roue ou même l'axe du moulin à bête, le manège, et le mécanisme qui travaille, les rouleaux broyeurs, il faut se rendre compte qu'il y a une double transformation du mouvement. Cette transformation, elle est effectuée soit en translation simple sur le moulin à bête, soit décomposée, accélérée, ralentie et surtout modifié dans sa direction par un engrenage. Je vous ai dit tout à l'heure que l'engrenage, lui aussi, est une roue, est aussi un élément de mécanisme basé sur le principe de la roue. Cet engrenage, on l'appelle une lanterne, simplement parce qu'il ressemblait aux fameuses lanternes que l'on utilisait la nuit dans le carnaval, c'est-à-dire une boîte ronde avec des barreaux entre lesquels la lumière filtre. Eh bien, au lieu d'avoir du papier huilé ou de plastique transparent entre les barreaux, vous aviez du vide, et dans ce vide, des engrenages d'une roue plus grande venaient s'incruster, s'engrainer. Mais restons-en au principe du mouvement et de sa transformation. Dans la lanterne, vous avez une première transformation qui est celle de la direction du mouvement. En effet, la roue qui est directement branchée sur les ailes du moulin ou sur les pales, la roue à aube du moulin à eau. Elle tourne autour d'un axe qui a une certaine direction. Mais cette direction, elle n'est pratiquement jamais la même que celle dans laquelle tournent les rouleaux broyeurs. Il faut donc transformer ce mouvement, le faire changer de direction. On appelle cela un renvoi d'angle, puisque le mouvement fait un angle droit. La seconde transformation qui s'opère dans tous les grands moulins, c'est une transformation de la vitesse. Les roues à vent ou à eau tournent soit trop vite, soit trop lentement pour les besoins du travail au niveau des rouleaux d'écrasement. Il faut donc adapter cette vitesse en intercalant entre les ailes ou les roues à aube et les rouleaux à broyeur des engrenages, là encore, de différents diamètres et des roues dentées. Dans le cas du moulin à vent, les ailes poussées par le vent tournent sur un arbre horizontal qu'on appelle axe ou arbre tournant. Elles entraînent une petite roue à barreaux, appelée lanterne, comme je vous l'ai dit, ou à aluchon. Les aluchons, ce sont les ancêtres des engrenages. Ce sont en fait des chevilles en bois insérées dans une roue en bois. Nous sommes, je vous le rappelle, dans une civilisation où le fer est rare et cher. Pratiquement tous les outils sont faits en bois, sauf ceux qui exigent une très grande résistance et surtout qui ne sont pas trop importants en volume. Les aluchons, donc, qu'on appelle aujourd'hui des chevilles, sont montés sur une roue qu'on appelle un rouet. La grande roue, ou rouet, s'engraine sur la petite, la lanterne. En fait, ce sont les chevilles ou les barreaux qui s'engrainent les uns dans les autres et qui, donc, modifient le mouvement qui a été impulsé par les ailes et surtout lui donne une autre vitesse puisqu'on passe d'une petite roue qui tourne donc plus vite à une grande roue qui tourne plus lentement. L'axe vertical de la grande roue, le rouet, est solitaire du rouleau broyeur central et l'entraîne. Dans le cas du moulin à eau, la roue motrice verticale, elle est mise en mouvement par l'eau, comme son nom l'indique. L'eau fait levier sur chaque aube, qui peut être un auget ou un godet. Ça désigne la forme et l'inclinaison des pales de la roue. Cette roue tourne sur un arbre horizontal, qu'on appelle axe ou arbre tournant, comme dans le cas du moulin à vent tout à l'heure. Elle entraîne une roue de petite dimension, munie d'aluchons ou de chevilles, elle aussi appelée rouet, ou roue de rencontre. Les chevilles s'engrènent dans les trous d'une roue plus grande, appelée balancier, qui est montée sur un axe vertical. C'est l'axe du balancier qui est solidaire du rouleau central et qui l'entraîne. Ce qu'il faut voir, c'est la grande différence entre les mécanismes du moulin à vent et les mécanismes du moulin à eau. Dans le cas du moulin à vent, la grande roue est placée en haut, près des ailes. Dans le cas du moulin à eau, elle est située en bas, près des rouleaux. Dans un cas, on réduit la vitesse, car les ailes du moulin tournent très vite, tandis que les ailes du moulin à eau tournent lentement, et là, il faut augmenter ou jouer sur la puissance. Dans tous les cas, le grand rouleau du moulin à canne tourne plus lentement que son moteur, que ce soit les ailes ou que ce soit la roue à aube. Pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas dans une civilisation de la vitesse, on n'est pas dans le film Charlie Chaplin qui nous montre le malheureux ouvrier à la chaîne, produisant le plus vite possible pour gagner sa vie. Ce qu'on cherche, c'est obtenir le plus de jus possible de la canne. Donc il faut exercer la force la plus importante possible pour écraser cette canne et le faire le plus lentement possible. Donc le moulin à canne joue sur la puissance d'écrasement et les rouleaux tournent lentement Alors que, par exemple, dans une automobile, on cherchera à démultiplier le mouvement produit par les explosions pour obtenir de la vitesse, quitte à perdre de la puissance. Alors que dans le moulin à meule européen, l'engrenage accroît la vitesse des ailes ou de la roue, dans le moulin broyeur du Nouveau Monde, l'engrenage ralentit cette vitesse initiale. Cette particularité qui aboutit à la disparition de la lanterne est propre à tous les moulins de la Martinique et des Antilles. Et c'est elle qui fait leur originalité dans l'univers technique des moulins. Vous êtes à l'écoute de Campus FM, fréquence 96.7, et vous venez d'écouter la deuxième partie de l'émission posée, développée par des spécialistes dans des domaines variés. Aujourd'hui, le thème est consacré au moulin de la Martinique. Il vous est présenté par Vincent Huyghues-Belrose, agrégé d'histoire, docteur d'État-S, lettres et sciences humaines, et par l'Association régionale des Amis des Moulins de la Martinique, dont le siège est dans l'ancien collège rue Castien-Sainte-Claire, au Saint-Esprit de la Martinique. Vous avez écouté dans la première partie, puis dans la seconde, une présentation de tous les moulins qui ont pu voir le jour et être utilisés à la Martinique depuis les origines de la colonisation. Ensuite, je vous ai parlé des mécanismes et des mouvements que supposent l'utilisation et la fabrication du moulin. C'était peut-être un peu technique. Et nous allons revenir à des choses peut-être plus faciles dans la troisième partie qui commence maintenant et qui sera plus précisément consacrée aux énergies utilisées pour mouvoir les moulins. Si le moulin à manioc et même le moulin à indigo, qui ont été d'abord actionnés par l'homme, sont devenus ensuite une machine entraînée par l'eau, c'est que le sucre est venu s'imposer comme production dominante de la Martinique et qu'il y a transformé la technologie et ce qui constitue l'essentiel de la technologie, bien sûr, la technologie des moulins. D'après les historiens des techniques, le moulin à broyer la canne aurait été mis au point en Amérique à partir d'un moulin à égrainer le coton, connu en Espagne depuis bien longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure que les Européens, s'ils avaient emprunté la canne à sucre à l'Inde et au monde musulman, ne lui ont pas emprunté le moulin particulier qui servait à broyer la canne, lequel moulin, je vous le rappelle, consistait en un mortier dans lequel un pilon entraîné en rond par des chevaux ou des bœufs broyait la canne. Cela n'a rien à voir avec le procédé que nous connaissons tous, qui lui repose sur les rouleaux, des rouleaux qui écrasent par leur mouvement et leur pression les cannes qui sont introduites entre eux. Alors d'où nous vient ce moulin à rouleaux? En tout cas, il n'en existe pas en Europe. Il y a des choses qui s'en approchent. Le fameux moulin à calandre dont je vous parlais, de l'industrie textile qui servait à lisser. Peut-être d'autres moulins toujours utilisés dans le textile avec le lin, mais rien qui soit vraiment directement lié à ce que nous voyons apparaître dès le début du XVIe siècle à Saint-Domingue et au Brésil. Il semblerait que les Espagnols, puis les Portugais, les Espagnols d'abord, et sans doute des moines espagnols, jésuites ou dominicains, passés en territoire portugais, ont adapté différents moulins qui existaient en Europe, mais peut-être aussi, c'est une hypothèse, mais elle reste très débattue, un type de moulin qui ressemblait au bric-à-brac que l'on utilisait au Pérou, dans l'Empire Inca. Au départ, je vous le disais dans l'un des épisodes précédents, pour écraser la canne, on se servait du bric-à-brac qui était composé de deux rouleaux verticaux. Mais très vite, on y en a ajouté un troisième, toujours en bois. On peut se considérer que les moulins à broyer la canne sont une véritable création du Nouveau Monde. J'y dirais même plus, une technologie véritablement créole, car produite par la confluence de plusieurs cultures techniques venues d'ailleurs. La première force d'entraînement utilisée, bien sûr, c'est le bras de l'homme. Mais vu les quantités produites, et malgré l'idée que l'on se fait de l'esclavage, il y avait des besoins de rentabilité qui ont fait qu'on n'allait pas gaspiller l'énergie des esclaves à tourner autour d'un axe. C'est dans les films que l'on voit ça, alors qu'on en avait besoin dans les champs ou à d'autres occupations. La force d'entraînement des rouleaux, qui, je vous le rappelle, doit être énorme, et puisqu'on recherche la puissance d'écrasement, elle était obtenue suivant le principe du moulin à manège. Vous connaissez tous, au moins par la télévision, les manèges. Ce sont ces grands bâtiments couverts, ou ouverts d'ailleurs, sablés ou cendrés, dans lesquels on fait tourner les chevaux en rond pour les entraîner. C'est aussi le principe du cirque, où vous voyez que toutes les prestations se font en tournant devant le public qui est disposé en gradin, mais en cercle. Et que les animaux, chevaux et les hommes, tournent sans arrêt autour de ce manège. Eh bien, en plaçant l'axe du levier au milieu du manège, on peut produire un mouvement tournant. Les bêtes tournant sans arrêt sur les bords des extrémités du levier. Ce manège, on ne sait pas trop d'où il vient. Tous les peuples qui ont domestiqué le cheval le connaissent, de la Chine à l'Europe du Nord. Et bien entendu, la Méditerranée, qui depuis les Égyptiens, les Grecs, connaît l'utilisation du cheval. Les deux bras du manège, dont je vous disais qu'ils étaient peut-être poussés par des hommes dans les petites unités de production, et en cas de nécessité, sont, toute l'iconographie et toute la littérature en témoignent, actionnés par des animaux. Malheureusement, et ça on n'y pense pas souvent, il n'y avait en Amérique, dans les deux Amériques, aucun animal susceptible de fournir une traction suffisante. Vous croyez peut-être, à force de regarder des westerns, que les chevaux, les fameux mustangs de la grande prairie, sont indigènes, mais pas du tout. Ce sont les descendants des premiers chevaux arabes introduits par les Espagnols pour les besoins de leur expédition et qui sont devenus sauvages. Même chose, ceux qui ont pu survivre en Amérique du Sud, parce que les conditions de température et certaines maladies ont été néfastes à leur reproduction, mais en altitude, les chevaux ont pu se multiplier. Vous croyez peut-être aussi, en pensant à la bonne viande du Brésil ou de l'Argentine, ces énormes steaks qui font leur folklore culinaire, que les bœufs ont toujours vécu en Amérique. Eh bien, pas du tout. Bœufs, moutons, chevaux sont arrivés à fond de cale depuis l'autre bord de l'Atlantique, transportés par les Espagnols et par les Portugais. Ils se sont ensuite adaptés et reproduits. On comprend donc que tout le complexe du sucre est importé. La canne vient de l'Inde, les différents éléments du système de la roue que les Amérindiens ignoraient. C'est une des grandes surprises que de découvrir que le concept de roue n'a été utilisé que par les astronomes ou astrologues, appelez-les comme vous voudrez, incas ou périviens ou mexicains, mais qu'ils n'en ont jamais fait aucun usage technique. La roue n'appartient pas à la civilisation technique amérindienne. Donc la roue est venue d'ailleurs, son principe, son mouvement, son utilisation, son concept, mais pas son concept effectivement, puisqu'il est dans les écrits et dans le système astronomique des anciens Incas et Mexicains. Et maintenant je suis en train de vous dire que le moteur, c'est-à-dire les animaux eux-mêmes, chevaux, bœufs, mulets, sont venus de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Ancien Monde. C'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Et ça confirme, à mon avis, ce que je vous disais tout à l'heure, du caractère véritablement créole, c'est-à-dire une convergence, une fusion d'apports venus d'ailleurs en un lieu qui en éprouve le besoin. Le moulin à bête à trois rouleaux verticaux aurait été introduit vers 1640 dans l'île de Saint-Christophe, l'actuel Saint-Kitts, qui est, comme vous le savez, la colonie mère de la Martinique. Comment est-il arrivé là? Vraisemblablement par les Hollandais qui s'étaient installés, comme vous le savez, au Brésil entre 1624 et 1654 et qui, de là, chassés par les Portugais, se sont répandus dans toutes les Antilles et même jusqu'à l'actuel New York qu'ils avaient appelé New Amsterdam. Les premiers moulins de Saint-Christophe nous montrent l'utilisation conjointe du moulin à eau et du moulin à bête dans les débuts de la colonisation. L'illustration la plus ancienne que nous ayons retrouvée date de 1657, soit 17 ans après la première introduction de la technique dans l'île. On se rend compte que pour pouvoir installer des rouleaux broyeurs à l'île de Saint-Christophe, il a fallu y introduire bien sûr la culture de la canne à sucre, défricher, planter, récolter, mais qu'il a fallu également y acclimater des animaux, puisque actionner un moulin avec des bêtes suppose élever et nourrir des animaux. Les maigres pâturages naturels que nous connaissons ici, il suffit de regarder dans la campagne pendant le carême comment les animaux souffrent de soif et comment ils maigrissent. Les pâturages sont secs, sont pauvres en aliments, en apports nutritifs. Et la sécheresse du carême a fait que les troupeaux dans les petites et les grandes Antilles, à la Martinique comme à la Guadeloupe ou à Saint-Christophe, n'ont jamais pu s'accroître, ni même se conserver. Il fallait sans cesse importer du continent américain de nouvelles bêtes de somme. Je vous rappelle, parce que je suis sûr que vous ne le savez pas, que jusque dans les années 1940, on importait de Porto Rico chaque année des mulets et des bœufs que l'on lâchait dans la rade de Fort-de-France et qui arrivaient en nageant jusque sur la lance des Flamands, sur la française, avant qu'on ait transformé en 1935 pour les fêtes du centenaire le bord de mer, il remontait beaucoup plus haut. Et c'était une grande attraction, avec des paris, que de voir les bœufs et les mulets de Porto Rico aborder la rive de Fort-de-France. Et on faisait même des paris pour savoir lesquels arriveraient le premier. Après cette petite anecdote, j'en reviens aux choses sérieuses. Vous comprenez qu'il fallait sans cesse importer des animaux. Soit, comme je vous le disais dans les années 1930-1940, des grandes Antilles, soit au XVIIe et XVIIIe siècle, de ce qu'on appelait la terre ferme, c'est-à-dire la côte du Venezuela ou de Colombie. Et ces achats, vous vous en doutez bien, il fallait les payer comptant. Ils coûtaient cher et la monnaie était rare. Sur le moyen terme, le moulin à bête était, pour les Antilles, une machine très coûteuse. Comme les colons n'étaient pas là pour perdre de l'argent, mais pour en gagner, ils ont très vite cherché des moyens pour réduire ces dépenses de, je dirais, d'énergie, ces achats d'animaux aux colonies espagnoles. C'est donc d'abord pour réduire cette dépense et accroître la rentabilité de la sucrerie que l'on s'est tourné vers des forces motrices gratuites. On dirait aujourd'hui vers des énergies renouvelables. La première de ces énergies, c'est l'eau courante. Et le premier moulin à utiliser cette énergie est donc le moulin à eau. On est certain qu'il n'était pas connu en 1640 dans l'île de Saint-Christophe et qu'il est arrivé ensuite. Qui l'a introduit ? Des protestants et des juifs hollandais chassés du Brésil par les Portugais qui, en 1654, se sont réfugiés dans toutes les Antilles, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Christophe, mais aussi à Curaçao, à Tobago, partout où la colonisation française étendait son emprise et pouvait leur assurer une protection contre les Portugais. Les juifs et protestants hollandais ont apporté avec eux la technique du moulin à eau que les Portugais avaient mise au point depuis un siècle dans leur colonie américaine. Le moulin à eau, lui, c'est certain, n'est pas une invention amérindienne. L'utilisation de l'eau, on ne la retrouve dans aucune fouille archéologique, dans aucun témoignage. En revanche, depuis l'antiquité indo-iranienne, c'est-à-dire 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ, l'eau est utilisée pour l'irrigation, pour des pompes, pour le drainage dans ce qu'on a appelé la Mésopotamie. La Mésopotamie, ça signifie ce qui est au milieu des fleuves. Donc c'est une civilisation de l'eau, de l'eau courante et donc de la technique de l'eau. Eh bien, cette technique venue des plus anciennes civilisations de l'Ancien Monde est passée dans la Méditerranée depuis un millénaire et apportée par les Espagnols et les Portugais en Amérique. Mais cette technique supposait une adaptation. Cette adaptation est réalisée au Brésil par les Portugais. Mais il se peut très bien que l'adaptation ait déjà été faite dans la péninsule ibérique à l'époque de l'occupation musulmane. Les Arabes ont laissé de nombreux moulins en Espagne après leur expulsion. Et la plupart de ces moulins étaient des moulins hydrauliques, actionnés par l'eau. Certes, ils servaient à broyer du blé, des céréales, ou des produits textiles, ou encore des olives, pour produire de l'huile, ou encore des boissons, bien que le vin ait été prohibé par l'islam. Mais tout ce contexte technique du moulin à eau est sans doute bien antérieur aux premières avancées techniques de l'Europe méditerranéenne et c'est une dette que l'on doit à la civilisation musulmane. Vous voyez, avec les techniques créoles, on va chercher vraiment très loin les éléments de construction d'un monde. Quant aux Hollandais, il faut se souvenir qu'ils sont restés sous domination espagnole jusqu'en 1581. Ce que nous appelons Hollande aujourd'hui, c'était une véritable colonie espagnole. Les Hollandais ont donc récupéré l'héritage espagnol en matière hydraulique et donc en fait l'héritage musulman. Et ils y ont ajouté leurs propres avancées puisque les Hollandais sont par excellence les maîtres du moulin à vent. Au point que vous achetez une boîte de lait hollandais, et bien qui voyez-vous ? Un moulin à vent. Le moulin à vent est le symbole de la Hollande qui leur a servi à assécher les marais, à constituer les polders dont ils sont aujourd'hui encore les maîtres, drainage, irrigation pour actionner des pompes, mais aussi moulin à beurre, moulin à céréales. Les Hollandais ont donc, en quittant le Brésil, récupéré deux héritages. Le leur, celui de leur patrie d'origine en matière d'énergie éolienne, le moulin à vent, et celui des hispano-musulmans que l'Espagne chrétienne et le Portugal chrétien ont récupéré en matière de moulin à eau. Tout cela, je le trouve fantastique. J'espère que vous partagez mon avis. Les premières roues hydrauliques qui furent construites à la Martinique l'ont été à Saint-Pierre, en très petit nombre, car le moulin hydraulique, nous le verrons, exige une maîtrise en matière de maçonnerie, d'hydraulique, que le premier colon venu, moitié paysan illettré, moitié soudard démobilisé, ne pouvait pas maîtriser. Et donc il a fallu que les colons de 1654, ceux qui ont pu rester juifs ou protestants, ceux qu'on a, je devrais mieux dire, tolérés, vu la nécessité de se faire catholique pour vivre en terre française, eh bien ces gens-là ont transmis leur savoir et ça a pris un certain temps. Ils ont donc construit eux-mêmes leur premier moulin et ces constructions ont servi d'exemple aux Français catholiques. Ils ont construit donc un petit nombre de moulins hydrauliques à côté des moulins à bœufs, car les nouveaux moulins coûtaient 10 fois plus cher que les anciens. Donc, le premier moulin hydraulique n'a pas détrôné le moulin à bête. Certes, le moulin à bête, je vous le disais tout à l'heure, coûtait cher parce qu'il fallait sans cesse racheter des bêtes, mais à la construction, il suffisait de déblayer un terre-plein ou même d'égaliser le sol, de le damer, de faire une aire en terre battue, de planter au milieu un pieu, de dresser 3 rouleaux, et puis de faire tourner les animaux, on avait un moulin broyeur sur le principe du manège, tandis que un moulin à eau supposait des constructions en pierre, en moellon, en mortier de chaux, et donc un investissement en matériaux et en techniques qui n'était pas à la portée du premier venu. Quant au moulin à vent, les réfugiés du Brésil apportent sa technique totalement ignorée des Français qui se trouvaient là, qui sont, comme vous le savez, originaires du bassin parisien ou de la Normandie. Les réfugiés du Brésil apportent en 1654 la technique du moulin à vent. Il se peut d'ailleurs que des Hollandais aient échoué à la Martinique un peu avant. C'est une hypothèse avancée par Madame Chollot en particulier, qu'il y a eu des Hollandais avant les réfugiés du Brésil. En tout cas, c'est l'un d'entre eux, Pierre l'Ermite, protestant allemand, ancien colon du Brésil, qui construit le premier moulin à vent à côté d'un moulin à manège sur son habitation du Morne des Cadets, au-dessus de Saint-Pierre. Comme le moulin à eau créole, le moulin à vent tire son origine des civilisations de la Méditerranée. Les croisés en avaient arraché la science aux musulmans de Terre Sainte au XIIIe siècle et l'avaient répandue dans les grandes plaines de l'Europe du Nord qui offraient de parfaites conditions de fonctionnement. Les Hollandais, je vous le disais, pour les besoins de la mise en valeur de leur pays, en ont développé la technique et l'ont introduite au Brésil et c'est de là qu'il est arrivé chez nous. Une gravure de 1667 nous montre le premier moulin à vent de la Martinique au-dessus de Saint-Pierre, sur les mornes des Cadets. Nous n'avons malheureusement pas de gravure équivalente pour le premier moulin à eau, mais une carte de 1605 d'une série consacrée au moulin de la Martinique dans le cadre de l'encyclopédie sonore de Campus FM. Cette encyclopédie sonore se propose de vous présenter des sujets variés, développés par des spécialistes dans leur domaine de compétences. Vous avez aujourd'hui entendu parler des moulins de la Martinique, avec, dans une première partie, leur importance dans la culture et dans le paysage, leur origine, leur première utilisation à la Martinique. Ensuite, vous avez eu un petit exposé de technologie. Qu'est-ce qu'un moulin? Le principe de la roue, les principes de la transformation des mouvements. Et vous venez d'entendre des réflexions sur les origines multiples et croisées du moulin créole, qu'est le moulin à broyer la canne des Antilles et plus particulièrement de la Martinique. Cet exposé vous est présenté par Vincent Huyghe-Belrose, agrégé d'histoire, docteur d'état, ès-lettres et sciences humaines, ancien enseignant à l'UAG, et par l'Association régionale des Amis des Moulins de la Martinique, dont le siège se trouve dans l'ancien collège rue Cassien-Sainte-Claire, au Saint-Esprit, Martinique. Je vais maintenant vous parler des moulins et de la nature à propos de l'énergie qui meut ces fameux moulins à broyer la canne. À partir de 1654, date, je vous le rappelle, qui est celle de l'arrivée des juifs et protestants hollandais chassés du Brésil, et jusqu'à l'introduction de la machine à vapeur et de sa chaudière à charbon à la Martinique, ce qui nommait dans les années 1804, pendant une des occupations anglaises, on a utilisé à la Martinique que des énergies naturelles, le vent et l'eau des rivières. Je vous rappelle que la Martinique reçoit les alizés, ces vents réguliers qui soufflent depuis l'est et qui poussent les nuages issus de l'évaporation atlantique vers les petites Antilles. Pendant le carême, ces nuages sont élevés et il ne pleut que sur les montagnes. Pendant l'hivernage, ils sont plus épais et plus bas. Il pleut donc aussi à basse altitude et il pleut, dans les bonnes années, beaucoup. Le nord, l'est et les régions montagneuses de notre île, qui font face au vent, reçoivent des précipitations plus fortes. Les cours d'eau y sont donc plus abondants et plus permanents. Mais si les régions bien exposées aux alizés sont favorables à l'installation de moulins à vent, elles le sont aussi à celles de moulins à eau. Cependant, le vent est plus capricieux que l'eau. L'homme, en s'adressant à ses forces naturelles, va donc devoir jouer avec tous ses caprices, avec toutes ses irrégularités. L'offre de la nature n'est pas facile. Mais l'homme parvient à en tirer parti. Même s'il, malgré ses prétentions, n'a jamais réussi, heureusement peut-être pour nous, à les commander. L'homme est même incapable de prévoir les plus terribles d'entre elles, de ses forces, et de se prémunir contre leurs effets destructeurs. L'ouragan, je ne sais pas pourquoi, au fil du temps, on a remplacé les termes coup de vent, ouragan, qui était bien spécifique, par celui complètement flou, de cyclone, alors que cyclone devrait s'opposer à anticyclone, mais enfin, c'est aussi un phénomène de désagrégation des mots. Nous vivons à l'époque du Kleenex, les mots s'usent et se jettent. L'avalasse, vieux mot créole, encore utilisé à La Réunion, qui se souvient de ce que c'est qu'une avalasse, qu'on va appeler aujourd'hui une onde tropicale, avec les glissements de terrain et les débordements de rivières. Mais n'oublions pas d'autres forces, les forces telluriques, le tremblement de terre, forces terrifiantes de l'air et de la terre qui ne peuvent être contrôlées. Au fil du temps, les coiffes des moulins ont été emportées par un coup de vent, les digues balayées par des crues catastrophiques, les murs des moulins à vent et les murs des barrages ont été fissurés et même abattus par les séismes. La nature a toujours dicté ces conditions. Aussi, seules les forces naturelles contrôlables peuvent-elles devenir des énergies motrices. Mais ces forces naturelles contrôlables, à la différence du bras humain ou de la force du cou d'un bœuf ou d'un mulet, ne peuvent pas être directement commandées. Vous ne pouvez pas dicter à la nature le volume et la vitesse de l'eau qui forment le débit d'une rivière. Or, ils ne sont jamais constants. Vous ne pouvez pas dicter au vent sa vitesse, ni même lui ordonner de souffler en permanence ou de s'arrêter quand ça vous arrange. Il souffle quand il veut, comme il veut, et à la vitesse qui lui plaît. Incapable de commander à la nature, l'homme s'est donc soumis à ses lois. Je vous rappelle que c'est le principe de Bacon qui est à l'origine de toute l'évolution technologique de l'Europe. En créant et en adaptant sans cesse des mécanismes à une nature qu'on ne peut pas changer, l'homme parvient à l'utiliser. Ainsi, pour pallier l'irrégularité des débits, on a édifié des barrages de retenue, que nous appelons ici des digues. On a aussi construit des bassins de régulation. Pour le vent, eh bien, on a créé un système de pivot qui permet de tourner les ailes dans la direction où souffle le vent. On a muni les ailes de toiles pour fermer ces toiles quand le vent souffle trop fort et éviter qu'il arrache tout le mécanisme. On a donc adapté la technique aux injonctions de la nature dans le but de tirer parti. Cela nous introduit donc au problème technologique des énergies. L'énergie, je vous le rappelle, est ce qui permet de transformer la matière et de mettre en mouvement les objets. Ces deux capacités distinguent les deux grandes formes de l'énergie. La chaleur, qui caractérise l'énergie thermique ou calorique, et le travail, qui détermine l'énergie motrice ou encore énergie mécanique. Les moulins à bras, les moulins à bêtes, les moulins à eau et les moulins à vent transforment diverses énergies mécaniques en travail. Prenons par exemple une forme d'énergie thermique ou calorique, l'énergie musculaire. Vous avez sans doute tous remarqué que vous transpirez lorsque vous travaillez. Eh bien, vos muscles produisent de la chaleur pour parvenir à un travail. La première force capable d'actionner un outil, donc, et je vous rappelle qu'un outil, c'est un élément qui permet d'agir sur la matière. Eh bien, la première force vient des muscles de l'homme. Sitôt que l'homme a été capable de domestiquer les grands mammifères, il s'en est servi pour accomplir des travaux de force. Regardez, pour le transporter, la monture, pour transporter d'autres choses ou d'autres hommes, l'attelage, ou encore le portage. Sur les mulets, par exemple, on met des bâts, ou sur les ânes. L'animal a permis très longtemps d'accroître la capacité de travail de l'homme, tant pour le transport des charges que pour le labourage des champs, ou, c'est ce qui nous intéresse, pour faire tourner un moulin. On peut donc dire que la force musculaire de l'homme et la force musculaire des animaux sont les premières énergies mécaniques, non seulement de l'histoire de l'humanité, mais plus particulièrement de l'histoire technique des Antilles et de la Martinique. Je vous ai parlé dans la troisième partie du problème que posait l'énergie musculaire humaine ou animale. C'est que elle nécessite un renouvellement. Je n'ai pas voulu aborder le renouvellement de la main-d'œuvre humaine. Vous savez, hélas, qu'il a été fait de manière atroce par la traite des esclaves. Mais j'ai seulement parlé de celle beaucoup plus utilisée dans le cas des moulins, de celle que produisaient les mulets, les bœufs et les chevaux. Il a donc fallu trouver dans l'environnement des forces capables de se substituer à ces énergies musculaires défaillantes finalement sur le plan de la rentabilité et de la durée. Longtemps, l'homme a été tétanisé, paralysé par ces forces qui l'environnaient. Elles lui paraissaient si puissantes qu'il en a même fait des divinités. Vous pouvez constater au niveau de la mythologie que nous sommes là dans l'universel, où que vous alliez, de la Papouasie au fin fond de la Scandinavie, vous allez trouver des divinités du vent, des divinités du feu, des divinités de l'eau. En particulier, la force de l'eau et celle du vent, qui peuvent être si terribles pour les populations insulaires ou vivant au bord de la mer. Le mouvement d'un courant ou celui d'une chute d'eau, voilà ce qui a été la forme première d'énergie mécanique non musculaire découverte et utilisée par l'homme. La force naturelle de l'eau présente de multiples avantages. Elle est renouvelable indéfiniment. Elle est aussi stockable. elle ne consomme ni herbage, ni grains, ni, s'il s'agit de l'énergie musculaire de l'homme, ni cassave, ni couac, ni viande, ni aucun des aliments qui supposent une économie environnante. La force naturelle de l'eau est dénuée des irrégularités capricieuses du vent. Vous avez une rivière ou vous n'en avez pas. Et je vous ai parlé tout à l'heure des avantages du climat de l'île qui fait que le nord et l'est jouissent d'une pluviométrie telle que les cours d'eau y sont pratiquement permanents, sauf grave crise de sécheresse qui affecte dans ce moment-là toutes les productions humaines. L'utilisation du vent comme force motrice, certes, a libéré des contraintes de construction qu'impose l'énergie hydraulique, les digues, les barrages, les canaux, mais l'utilisation du vent est beaucoup plus dépendante des variations naturelles. En effet, pour présenter leurs ailes au vent, les moulins doivent être orientables, ce qui suppose une complexité technique et une qualification au niveau des bâtisseurs qui n'est pas évidente. Ce qu'on appelle la coiffe sur un moulin à vent, dont on ne voit plus d'exemple, puisque faits en bois et en matériaux putrescibles, ils ont disparu alors que la tour, elle, qui est en maçonnerie, a subsisté. Eh bien, cette coiffe qui porte l'axe des ailes sur une couronne de bois tournait sur la tour en pierre. Et on la faisait tourner à l'aide d'une longue perche. On pouvait, comme je vous disais tout à l'heure, régler la voilure des ailes en fonction de la force du vent et tout arrêter lorsqu'il ne soufflait plus ou lorsqu'il soufflait trop. Il y a d'autres énergies non renouvelables, en particulier celles qui relèvent de la chaleur, les énergies thermiques ou caloriques. Considérons d'abord sur le principe qu'il est facile de transformer l'énergie mécanique en énergie thermique. C'est ce que vous faites lorsque vous allumez une allumette. Vous frottez, c'est un mouvement mécanique produit par vos muscles, certes, mais c'est un mouvement mécanique, et vous obtenez la chaleur qui enflamme le produit volatile placé au bout de l'allumette. Eh bien, les Caraïbes faisaient de la même façon. Lorsqu'ils voulaient obtenir du feu, ils frottaient énergiquement un objet, un bois dur sur un bois plus tendre et plus combustible, le principe de l'arc à feu. L'option inverse, qui consiste à obtenir du travail à partir de la chaleur, n'a été maîtrisée que bien plus tard et que dans certains secteurs seulement de l'humanité. Prenons l'Europe, puisque c'est d'elle que nous vient cette technique. L'Europe n'a maîtrisé qu'au XVIIIe siècle la transformation de la chaleur en énergie métallique, en inventant la pompe à feu. Quand je dis inventer, je devrais dire réinventer, puisque l'Antiquité méditerranéenne, comme l'Antiquité chinoise, connaissait le principe et s'était même livré à des expériences et même avait fait des petits modèles considérés comme des jouets ou des curiosités. Ce qu'on appelait au XVIIIe siècle pompe à feu, et ce mot est intéressant, est en fait ce que nous appelons machine à vapeur. Les machines à vapeur, grâce à leur chaudière, transforment l'énergie thermique, la chaleur, en énergie mécanique, le mouvement. Vous savez que pour obtenir la chaleur, on se sert de la combustion de matériaux naturels. Le bois, le charbon de bois, le charbon de terre, appelé aussi houille, ou autres produits combustibles, en particulier la bagasse. La plupart de ces matériaux ne sont pas inépuisables. Remarquons que lors de l'introduction des premières machines à vapeur à la Martinique, dans les années 1800, les forêts de l'île, qui avaient été sérieusement attaqué par les défrichements de 2 siècles de mise en valeur, n'ont pu fournir le bois nécessaire au chauffage. D'autant plus que, comme en Haïti, on faisait du charbon de bois. Ça, c'est un aspect de la culture créole qui n'a jamais été étudié. On connaît pourtant aujourd'hui les méfaits dans la déforestation et le lessivage des sols de l'utilisation du charbon de bois. Or, il faut savoir que les forges, les ateliers de charronnage, des habitations, des bourgs et de la capitale, et même les ateliers officiels de l'armée ou du port, ont longtemps utilisé, au XVIIe, XVIIIe siècle, du charbon de bois qui était fabriqué. Selon une technique que peut-être un jour la série vous proposera, qui mérite un petit exposé et peut-être même une série d'exposés. Bref, très vite, on a importé du charbon de terre qu'on achetait aux Anglais et qu'on entreposait à Fort-de-France. Cela dès le début du XIXe siècle. Ce charbon de bois ne suffisait pas, et puis surtout, il était réservé aux besoins de l'armée, de la marine et de la navigation. On a alors brûlé la bagasse. Mais pour brûler la bagasse, il faut d'abord avoir écrasé la canne, donc utiliser une énergie pour broyer. Ce qui faisait que on gardait d'une récolte à l'autre la bagasse dans des cases à bagasse pour la faire sécher, et c'est ce qui faisait le combustible de la prochaine roulaison, comme on disait, c'est-à-dire saison de coupe et de production de sucre et de rhum. La bagasse n'a jamais suffi. On a donc importé du charbon de terre. Mais le charbon de terre, comme les forêts, comme le charbon de bois, ce sont des combustibles qui ne sont pas renouvelables. Au fond, seule la bagasse est renouvelée, puisqu'on replante chaque année des cannes et qu'on les recoupe chaque année pour les broyer et en obtenir à nouveau du combustible. La coupe du bois fait reculer la forêt. La houille est un fossile que l'homme ne peut reconstituer. Il faut donc considérer que ces énergies non renouvelables ont participé à l'appauvrissement de notre environnement. Contrairement à ce que l'on croit généralement, tous les types de moulins mécaniques ont été introduits à peu près en même temps à la Martinique. Construits aux environs de Saint-Pierre dès 1654, ils ont suivi les aléas de la colonisation de l'île et du développement de l'industrie sucrière, se propageant de l'ouest vers l'est. Actionnés par des bêtes, par l'eau ou par le vent, ils ont coexisté jusqu'au XXe siècle, même si, à partir du XIXe siècle, les moulins à vapeur ont peu à peu fait reculer les moulins à vent, d'abord, les moulins à bêtes, ensuite, et enfin, les moulins à eau. Les moulins à eau ont résisté, et cela jusqu'au XXe siècle, parce que l'hydraulique n'est pas l'énergie du passé. L'énergie hydraulique continuera sans doute à jouer un rôle prépondérant au XXIe siècle, en particulier pour la fourniture d'énergie électrique. Je vous rappelle qu'elle n'est pas polluante et qu'elle se renouvelle indéfiniment, enfin, tant que l'homme n'a pas perturbé le climat. La grande époque martiniquaise des moulins à eau correspond parfaitement à la suprématie de l'hydraulique dans l'industrie française, prise dans son ensemble, au XIXe siècle. Ce que l'on considérait jusqu'à présent comme l'archaïsme du cas français, en particulier les manuels généraux sur l'économie au XIXe siècle, l'histoire économique, ces manuels qui ne tiennent pas compte des recherches les plus récentes en matière d'histoire des techniques, oublient que face au système britannique qui reposait sur la houille et sur la machine à vapeur, le système français a constitué ce que les chercheurs appellent un choix de civilisation. L'économie industrielle française
fondée sur la houille blanche, c'est pas par hasard qu'on oppose la houille et la houille blanche. Cette économie industrielle se révèle aujourd'hui d'un moindre coût social. N'oubliez pas les mines, le travail des enfants, rampant derrière des wagonnets dès l'âge de 6 ou 8 ans. N'oubliez pas les maladies qui frappaient d'une mortalité ahurissante les mineurs et tous ceux qui travaillaient autour du charbon. Donc, moindre coût social, on pourrait presque dire moindre coût hygiénique, moindre impact écologique que celle de sa concurrente immédiate, la Grande-Bretagne charbonnière. En outre, l'option hydraulique s'est accompagnée d'une théorisation et d'une mathématisation de la technologie des moulins qui a fait de la France la patrie de la cinématique et de la mécanique des fluides, en particulier à l'école des mines, à l'école centrale. Et les hydrauliciens, les techniciens français demeurent jusqu'à aujourd'hui en matière de construction de barrages ou d'ouvrages hydrauliques parmi les plus demandés à travers le monde. Eh bien, ils le doivent au choix du moteur hydraulique, préférentiellement au choix du moteur, je dirais, thermique, la machine à vapeur, dès le XIXe siècle. Grâce à un réseau très dense de rivières, l'hydraulique française a bien été l'énergie gagnante du XIXe siècle. La Martinique a participé à ce mouvement, même si, pour des raisons commerciales, c'est toujours le problème, elle s'est équipée de matériel britannique. Les idées, la technologie, les principes, les prototypes étaient français. Et le commerce, le matériel était britannique, comme ils sont aujourd'hui états-uniens. Il reste aux chercheurs à évaluer pour l'île la rentabilité respective de la roue hydraulique et de la machine à vapeur. Les différentiels sociaux et écologiques de chaque option pour la même période. Il faudrait aussi que tous les Martiniquais se demandent si les énergies polluantes et non renouvelables qui fondent aujourd'hui l'économie de l'île sont et seront des énergies aussi gagnantes que l'eau et le vent l'ont été jadis. Pour redonner au caractère qu'ils avaient jadis, pour redonner aux moulins le caractère qu'ils avaient jadis et qu'ils ont perdu, il nous faut donc réintroduire la conscience de la nature même des machines, de leurs relations mutuelles, de leurs relations avec l'homme et des valeurs impliquées dans ces relations. Pourquoi ne pas privilégier parmi ces valeurs la beauté? On trouve des automobiles qui ne sont au fond que des tas de ferrailles belles. Mais le charme des vieux moulins à vent, la séduction des roues hydrauliques ne sont reconnus par les catalogues touristiques ni par nombre de visiteurs que comme des curiosités. Est-ce que la beauté de l'objet technique n'apparaît que lorsque celui-ci est inséré dans la consommation? Ne vaudrait-il pas mieux l'insérer dans son monde, dans sa géographie, dans son humanité? Alors, l'impression esthétique serait renforcée par la compréhension de l'enjeu. Et pourquoi cette machine est là? Comment est-elle là? Ainsi, le moulin à vent, il n'est pas vraiment beau tout seul. Mais il est beau lorsque le vent gonfle ses ailes et les fait tourner. Ce sont les ailes dans le vent qui sont belles. Mais elles ne sont là que par l'homme qui commande et contrôle leur mécanisme. Même les tours privées de leur mécanisme sont belles, comme des statues sur un promontoire. Et que dire alors des roues, des moulins à eau, si l'on pense qu'à la vue s'ajoute l'ouïe avec ce bruit apaisant est tellement plus reposant pour ceux qui cherchent des atmosphères cool que celui des haut-parleurs nous lâchant des décibels en excès. Reposez-vous bien à l'ombre des moulins. Vous venez d'entendre la dernière partie de ce thème consacré aux moulins de la Martinique qui vous avait été présenté par Vincent Huyghe-Belrose, ancien enseignant à l'UAG et spécialiste du patrimoine industriel et architectural, qui a aidé pour cela par l'Association régionale des Amis des Moulins de la Martinique, dont le siège, je vous le rappelle, se situe dans l'ancien collège, rue Cassin-Sainte-Claire, au Saint-Esprit à la Martinique. Vous pouvez vous y procurer une brochure gratuite qui s'appelle « Moulin de la Martinique », brochure que vous trouverez également à votre disposition lorsqu'elle rouvrira à la bibliothèque universitaire du campus de Schœlcher. Ainsi s'achève cet ensemble d'exposés consacrés au Moulin de la Martinique. Vous êtes sur la fréquence 96.7, vous avez suivi l'encyclopédie sonore de Campus FM qui vous proposera prochainement d'autres thèmes consacrés à l'homme et à la nature dans la Martinique d'hier et d'aujourd'hui.